RFI, il est 7h30 à Paris, 6h30 en temps universel.
RFI Matin.
Et le journal d'Arthur Ponchelet. Bonjour Arthur.
Bonjour Marion et bonjour à vous qui nous écoutez. À la une ce matin, ils ont 3 mois pour se mettre en règle. En Guinée, plusieurs partis politiques suspendus par la junte au pouvoir, le RPG d'Alpha Condé et l'UFR de Sidya Touré, ont interdiction d'exercer toute activité dans les 3 prochains mois. L'UFDG, elle, échappe à la suspension, mais à une condition, vous l'entendrez. Au Niger, des expulsions et des questions après le départ des 3 investisseurs chinois poussés dehors par les militaires au pouvoir à Niamey. On s'interroge comment expliquer ces tensions. Analyse à suivre. Au sommaire également, on est au Sénégal où les médecins ont réussi une greffe de moelle osseuse, la première dans le pays. Au Togo où les réactions s'enchaînent après l'exclusion de plusieurs élèves de leur collège et lycée. On leur reproche d'avoir mis enceinte des camarades. Et puis au Cameroun où nous emmène notre dossier ce matin consacré à la semaine de la francophonie. On se promène sur la langue de Molière avec les slameurs de Yaoundé, un art de plus en plus populaire dans la capitale camerounaise.
Des partis suspendus, d'autres carrément dissous et des formations sous surveillance. En Guinée, le gouvernement a présenté hier le rapport final de la campagne d'évaluation des partis politiques.
Résultat, suspension pour 3 mois du RPG, l'ancien parti au pouvoir du président déchu Alpha Condé. Même traitement pour l'UFR de l'ex-premier ministre Sidya Touré, le ministère de l'administration territoriale. Leur reproche de ne pas avoir fourni la preuve de leur existence bancaire ou de ne pas avoir tenu de congrès dans le dernier trimestre. L'UFD, principale force d'opposition, elle peut continuer ses activités à condition d'organiser un congrès avant les 2 prochains mois. Correspondance à Conakry de Mouktarba.
C'est officiellement pour assainir l'espace politique guinéen que le ministère de l'administration du territoire a procédé à cette évaluation, explique Madame Camara Dianabou Touré, la directrice des affaires politiques du dit département.
Quelqu'un qui a passé 50 ans à gérer son parti sans pouvoir céder, donc ça veut dire que c'est une entreprise personnelle. Quand il arrive au pouvoir, je vous dis, ne vous attendez pas à avoir de la démocratie au sommet de l'État.
En réaction, l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, l'une des principales forces politiques du pays, mise sous observation pour 45 jours, croit plutôt à une diversion. Joachim Baba Milimono, le chargé de la communication.
Quelque peu déçu, mais plus ou moins satisfait du résultat. Mais aussi inquiétant. Pourquoi ? Cela pourrait s'apparenter à un processus d'épuration masquée de la classe politique, une manière probablement de mettre à la touche ou à la retraite un certain nombre de leaders jugés gênants.
L'UFR de l'ancien Premier ministre Sidya Touré a été suspendu et interdite d'exercer toute activité politique pendant 3 mois, le temps de remplir les conditions exigées. Foudé Baldé, porte-parole du parti, réagit.
La volonté n'est rien d'autre que de faire en sorte de créer les conditions pour que le CNRD soit seul sur le terrain et consolider son pouvoir acquis par les armes. C'est ce qui est regrettable.
Selon le ministère de l'administration du territoire, 75 partis sont autorisés à poursuivre leurs activités politiques et 24 autres sont en sursis. Mouktarba Conakry, RFI.
Il dirige la raffinerie de Zinder, extrait le pétrole brut et gère le pipeline pour exporter l'or nigérien. Tous sont chinois et ont en commun d'avoir été expulsés par les autorités nigériennes. Nouvelle étape dans les tensions entre Niamey et les investisseurs chinois dans le pays. Au début du mois, le gouvernement avait déjà retiré sa licence à un hôtel de luxe chinois. Autant d'annonces clairfages qui suscitent de nombreuses questions.
La pénurie de carburant en plein ramadan a-t-elle déclenché la décision d'expulser les cadres des sociétés chinoises, sachant que la seule raffinerie du pays est entre les mains d'une de ces sociétés, Soraz, qui a vu ses comptes saisis. La société WAPCO est-elle de son côté sanctionnée pour les attaques subies sur le trajet de l'oléoduc, malgré son engagement à le faire surveiller par des drones? C'est plutôt le non-respect de la loi nigérienne sur le contenu local qui est invoqué par les partisans de la junte. Au début du mois, un arrêté avait également motivé le retrait définitif de sa licence à l'hôtel chinois Solux par des pratiques, je cite, discriminatoires envers les Nigériens et des déclarations erronées de nuitées et donc de taxes. Une autre piste remonte à novembre dernier, selon une source proche de l'industrie pétrolière nigérienne. Les autorités de Niamey menacent alors déjà la raffinerie Soraz d'un redressement fiscal et elles demandent à la société chinoise CNPC une nouvelle avance de cash sur le paiement du brut nigérien, moins d'1 an après avoir obtenu d'elle la première avance de $400 millions. Alors même que ce pétrole a tardé à quitter le Bénin via l'oléoduc pour des raisons diplomatiques.
Claire Fage, en bref, l'Afrique du Sud dit regretter l'expulsion de son ambassadeur aux États-Unis. Hier soir, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a déclaré Ibrahim Rasoul persona non grata, l'accusant d'haïr Donald Trump et de nourrir les tensions raciales. C'est une bonne nouvelle pour les patients atteints de cancer du sang en Afrique de l'Ouest. Pour la première fois, le Sénégal a réussi une greffe de moelle osseuse opérée le 23 février dans un hôpital public de Dakar. Le premier patient qui en a bénéficié se porte bien. Alors de quoi s'agit-il exactement? Réponse à Dakar avec Léa Lisa Vesteroff.
La pénurie de carburant en plein Ramadan a-t-elle déclenché la...
On retrouve Léa Lisa Vesteroff à Dakar pour nous parler donc de cette greffe de moelle osseuse réussie pour la première fois dans le pays. Je vous le disais, le patient a été opéré le 23 février dans un hôpital public de Dakar.
La greffe de moelle osseuse est un acte médical encore rare sur le continent africain. Réalisée au Maroc, en Tunisie, en Afrique du Sud et au Ghana, cette première réussite en Afrique de l'Ouest francophone devrait donc permettre à des dizaines de patients au Sénégal, mais aussi dans les pays voisins, de pouvoir être opérés à Dakar, comme l'explique Fatou Sambandiaï, la chef du service hématologie de l'hôpital de Guédiawaye, qui a supervisé cette greffe de moelle osseuse.
Tous les collègues africains attendaient l'ouverture de ce centre pour pouvoir nous envoyer ces patients-là, qui au moins pourrait bénéficier d'une autogreffe, ne serait-ce qu'ici en Afrique. Et ça peut-être pourrait diminuer le coût.
7 millions de francs CFA, c'est le coût pour l'heure de cette opération délicate au Sénégal, qui grâce à un prélèvement du sang permet de soigner le myélome multiple des os, le cancer du sang le plus répandu au Sénégal. L'équipe médicale a en réalité prélevé du sang sur le patient, une machine a ensuite sélectionné les cellules souches saines, puis après une chimiothérapie pour tuer toutes les cellules malades, les cellules souches prélevées ont été réinjectées pour que le sang se régénère et que le patient guérisse. C'est ce processus délicat et long qui explique que l'hôpital public de Guédiawaye est attendu près de 3 semaines avant de déclarer cette greffe de moelle osseuse réussie. L'équipe médicale plaide désormais pour la gratuité de cette opération pour que tous les patients qui le nécessitent puissent en bénéficier. Léa Lisa Vesteroff, Dakar, RFI.
RFI 6h37 en temps universel. On vous en parlait hier sur RFI au Togo. 43 élèves de la 6e à la terminale ont été exclus cette semaine de leur établissement scolaire. Tous ont mis enceinte des camarades de classe.
L'occasion de s'arrêter ce matin sur ce phénomène au Togo, celui des grossesses adolescentes. Chaque année, environ 3000 jeunes femmes tombent enceintes en milieu scolaire. Une situation préoccupante pour Ricardo Aguzou. Il est président de l'Observatoire pour la promotion de la santé en Afrique.
Une grossesse adolescente est un enjeu de santé publique. Et lorsque les adolescentes tombent enceintes, la priorité devrait être un accompagnement médical et psychologique des deux parents. Donc, si nous disons les deux parents, ça veut dire que cette décision d'exclure les garçons auteurs de grossesse est une sanction discriminatoire et déséquilibrée. Parce que quand on parle de cas de grossesse, on parle de responsabilité. Alors, il y a la responsabilité des parents, il y a la responsabilité des éducateurs, sinon les enseignants, il y a la responsabilité de l'État, des gouvernants. Ce nombre que nous venons d'enregistrer dans cette direction devrait plutôt interpeller pour savoir que, il doit y avoir une faille dans l'éducation sexuelle et reproductive. Et donc, c'est comme ça qu'une bonne réflexion devrait être mise au sommet pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, comment faut-il accompagner ces enfants, comment faut-il les orienter, parce que c'est des cas sociaux. Une décision d'exclusion massive, pour nous, est une réponse simpliste à un problème complexe comme celui-là.
Propos recueillis par Magali Lagrange. Quand des joueurs de foot font grève pour réclamer leur salaire au Cameroun, le syndicat national des footballeurs tire la sonnette d'alarme. La plupart des clubs de D1, D2 et du championnat féminin ont énormément de mal à payer leurs joueurs. Correspondance à Yaoundé de Joël Wadem.
Il y a 2 semaines, les joueurs de Bambutos de Bouda et ceux du Nisport du Honkam sont entrés en grève pour réclamer le paiement des salaires et des primes. En fait, c'est pratiquement l'ensemble des clubs de football camerounais qui ont des problèmes de salaire, comme l'explique Jean-Marcel Itiga, communicateur du syndicat national des footballeurs du Cameroun.
Le taux moyen de paiement de salaire pour le mois de février en première division est de 25%, en deuxième division de 11% et au championnat féminin de 0%. Ceux qui payent en première division division. On a Coton Sport de Garoua, Victoria United et Tarena de Mélan.
Union de Douala fait partie des bons élèves. Son président Polycarpe Kemonieu donne les raisons pour lesquelles les clubs ont des difficultés à payer les salaires des joueurs.
Les appuis divers, nous les entendons, que ce soit la subvention de l'État ou les quotes-parts que nous devons recevoir de la Fédération camerounaise de football. Les quotes-parts attendues représentent 40% de notre budget pour la saison. Sur les deux dernières saisons, nous avons reçu moins de 50% de ces quotes-parts-là.
Au-delà de la subvention de l'État qui n'est pas encore disponible, les clubs et la FECAFOOT ne s'entendent pas sur les modalités de mise à disposition des financements des sponsors. Une situation qui est à l'origine des mouvement de grève que projettent 12 et des 35 clubs des championnats de première et deuxième division à la fin de ce mois. Joël Wadem, Yaoundé, RFI.
On reste à Yaoundé, on part à la rencontre des slameurs très populaires dans le pays.
C'est notre dossier ce matin sur RFI consacré à la semaine de la francophonie. Ça démarre aujourd'hui, 7 jours pour promouvoir la langue française, parlée par plus de 300 millions de personnes dans le monde, parlée, déclamée plutôt par les slameurs camerounais. Ils sont nombreux à se produire sur de petites scènes partout dans le pays et Richard Onanena est parti à leur rencontre.
Cet après-midi, Rodrigue Njana, RN, ancien champion du Cameroun de slam, travaille avec deux jeunes consoeurs dans la cour de sa maison au quartier Santa Barbara à Yaoundé. Entre deux textes, il raconte comment il a vu le slam s'imposer au public en 15 ans de carrière.
Quand je suis arrivé dans le slam se résumait beaucoup à un atelier slam. Je fais un big up particulier à un grand monsieur du slam, Comfit Fool, qui a eu l'idée de la Coupe d'Afrique de slam. La Coupe du Monde est arrivée après. Puis nous, on est venu avec le 237 paroles, le Nda Slam. Et puis le championnat national est maintenant venu avec encore un peu plus d'icônes.
Personne ne tient les rênes. Des paroles qui motivent des jeunes comme Gabrielle Fouillette, 20 ans. Il y a 5 ans, cette fan de poésie est devenue la slameuse La Voyelle suite à un concours de circonstances.
Pour la petite histoire, le matin, il me dit que je preste le soir. Et je pensais que c'était une blague jusqu'à ce qu'à 18 ans, il me demande si j'ai un texte. Sans qu'il ne m'ait jamais appris quoi que ce soit, le slam c'est quoi, machin, truc, pas me lancer sur la scène comme ça. Et c'est comme ça que c'est parti jusqu'à aujourd'hui.
Larry Bouchom dit Larry, vice-champion du Cameroun de slam, se prépare en ce moment pour la Coupe du Monde de slam prévue au Mexique, où elle se rendra avec son mentor RN. Pour elle, la scène slam a fait une percée remarquable depuis ses débuts en 2018.
Je me rends compte que le slam est beaucoup plus connu que ce que moi je le pense. Et voilà, et déjà dans mon quartier, même les gens s'intéressent de plus en plus au slam.
Des artistes comme l'Idole qui font des scènes internationales ont propulsé le slam au rang de genre musical. Mais de la vie des slameurs, il est cependant difficile d'en vivre. Richard Onanena, Yaoundé, RFI.
Le slam à l'honneur donc de cette semaine de la francophonie. La poésie devrait aussi regrouper quelques adeptes ces prochains jours à Yaoundé. Jean-Claude Awono, éditeur et président de la Ronde des Poètes, y voit une occasion pour les poètes de s'écouter, mais surtout de se libérer.
Il faut considérer la poésie comme véritablement un ferment de thérapie. Comment ne pas la saisir comme telle lorsque chaque fois ceux qui se sont rassemblés dans le cadre de la Ronde des Poètes ou ceux qui sont venus vers moi ont presque toujours été des sortes de malades, malades sociaux, malades mentaux, entre guillemets, mais des gens qui ont presque toujours manifesté une sorte de déséquilibre, une sorte de souffrance intérieure. Et le fait de mettre en partage nos textes poétiques a toujours été une occasion, en réalité, de se libérer de ce trouble intérieur, de ces souffrances intérieures, une thérapie individuelle et collective par le biais du texte poétique. Donc ça n'a jamais été que ça, un moyen de se reconnecter avec soi-même et de sortir d'une sorte de paralysie mentale, de paralysie intérieure.
Jean-Claude Awono, éditeur et président de la Ronde des Poètes au Cameroun, au micro de Richard Onanena, notre correspondant à Yaoundé, qui signe ce dossier à retrouver sur notre site www.rfi.fr. Et c'est à Yaoundé que se referme ce journal et que je vous repasse la main, Marion Casanova.
Merci Arthur Ponchelet, à tout à l'heure.